This is CKCU Lithuania News. Good morning, I'm Hans-Georg Ruprecht. Voici Parole d'Afrique, une émission animée par Antoine Nulu Garcia à Paris, qui s'entretient avec l'écrivain Léandre Sahiri. Doctoresse lettres et critique littéraire, Léandre Sahiri est le directeur fondateur du journal indépendant et libre Le Filament. Léandre Sahiri a publié récemment une pièce de théâtre intitulée « Le Code noir de Louis XIV », parue aux éditions Mena et Buck en 2008. Voici donc Antoine Nulu Garcia à Paris.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un auteur d'origine ivoirienne, auteur prolifique, homme de théâtre, d'essais, de romans et autres poésies, mais également de nombreux articles politiques. J'ai nommé Léandre Sahiri. Léandre, bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci d'avoir accepté notre invitation ici à la librairie Galerie Congo à Paris, qui nous accueille une fois encore. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe pour sa gentillesse et son professionnalisme. Permettez-moi de commencer par une petite provocation. Vous aviez publié de nombreux ouvrages, nous l'avons dit, mais dans un monde où les inégalités sociales sont extrêmes, où les guerres civiles délabrent l'Afrique, mais également certains pays d'Europe, dans ce monde de la finance et du capitalisme parfois inhumain, Léandre Sahiri, pensez-vous qu'aujourd'hui, la littérature ait encore un sens ?
Oui, la littérature est l'expression des idées, et ce sont les idées qui mènent le monde. Donc, pour que le monde puisse évoluer, j'allais dire correctement, il faut la littérature, c'est-à-dire des gens qui pensent et qui expriment des idées pour permettre aux populations de voir clair dans la marche du monde. Donc la littérature a encore sa place, et la littérature a toujours eu sa place dans le monde. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, vous savez bien pourquoi certains écrivains sont mis à mal, parce que c'est eux qui sont les éveilleurs de conscience. C'est eux qui rappellent l'histoire, c'est eux qui permettent de comprendre le présent, de préparer l'avenir, et c'est les écrivains qui permettent au monde d'avoir une certaine visibilité de la vie. Donc la littérature a eu sa place, a sa place, a, et aura toujours sa place dans le monde.
Donc pour vous, la littérature a une vocation éducative?
Elle est incontournable, elle a une vocation pédagogique, elle a une vocation de rappel de l'histoire, et puis une vocation aussi de permettre de comprendre et de préparer le futur.
Alors, c'est peut-être aussi pour cette raison que vous avez fait un plaidoyer pour la lecture dans votre ouvrage « Lettres ouvertes aux Noirs qui ne lisent pas ».
Oui, alors « Lettres ouvertes aux Noirs qui ne lisent pas » est un appel qui fait suite à une conférence qu'avait faite un Américain qui s'appelle Dilly et qui déplorait le fait que les Noirs ne lisent pas. Et que le fait que les Noirs ne lisent pas est la source de tout ce qu'on rencontre comme vice et comme problème dans le milieu noir. Comme vous avez vu dans les milieux, par exemple, dans les ghettos, la violence, la cupidité, il y a un certain nombre de vices qui sont liés au fait que les gens sont ignorants. Et quand ils sont ignorants, ils cultivent le vice. Et donc moi, j'ai écrit cette lettre pour faire appel aux Noirs, pour qu'ils lisent, pour qu'ils s'ouvrent au monde, pour qu'ils s'ouvrent à la vie et pour qu'ils comprennent le mal qu'ils vivent dans les milieux où ils sont.
Est-ce que pour autant, vous faites un appel à la lecture, et on le comprend bien, est-ce que pour autant vous opposez la lecture, donc l'écriture, à l'oralité? Est-ce que vous êtes contre cette oralité qui est quand même une chose assez prégnante en Afrique?
Non, je ne fais pas d'opposition entre l'oralité et l'écriture. Ce que je veux dire, c'est que nous concevons des idées dans nos têtes. Ces idées viennent au monde. Pour venir au monde, elles passent par l'oralité. Et l'écriture est la seconde phase de l'expression, c'est-à-dire la matérialisation de la pensée. Donc je ne peux pas opposer oralité et écriture. Seulement je dis que la lecture et l'écriture permettent de matérialiser, de conserver ce qui a été dit. Or, tout ce qui est dit s'envole. Donc je demande cet appel, je ne pose pas écriture et oralité, je veux simplement que les gens s'intéressent à c'est pas parce qu'on s'intéresse à l'écriture, à la lecture, se cultive, c'est pas parce qu'on appartient à une civilisation orale qu'on doit ignorer l'écriture. Voilà mon souci.
D'accord, donc une vraie littérature globale, qu'elle soit dite ou écrite, voilà, vous êtes vraiment dans une vocation globale.
Globale, oui, et aussi parce que l'écriture, la lecture permet de vérifier par soi-même ce qui a été dit, alors que l'oralité ne permet pas justement cette véracité.
Alors, ce que l'on dit porte un sens. Et ce que l'on dit peut être plus ou moins engagé. Alors, moi je me souviens, lors du dernier Salon du Livre à Paris, nous étions ensemble pour une table ronde, vous insistiez sur le fait que la littérature, en particulier en Afrique, devait être engagée. Votre écriture est engagée, véritablement, que ce soit au niveau social, politique ou culturel. Et ce que je voudrais vous demander, c'est quel est finalement le message que vous voulez délivrer à travers votre écriture aux générations futures?
Bon, moi je suis d'abord un militant des droits de l'homme. Je suis entièrement engagé dans la défense des libertés et des droits. Ensuite, je voudrais faire la promotion des valeurs humaines. Et ensuite, mon combat fondamental, c'est contre l'ignorance. Parce que je pense personnellement que l'ignorance est la mère de tous les vices. Quand on est ignorant, on est comme un mouton dans un parc. C'est-à-dire qu'on est livré à tous les maux. Et donc, mon combat, mon engagement, c'est contre l'ignorance. Mon engagement aussi, c'est contre l'irresponsabilité. Parce que l'irresponsabilité est à la base de tout ce qui se passe en Afrique. Et dans tous les pays du monde, c'est des gens qui ne comprennent pas le sens de leurs actions. Des gens, quelquefois, qui ne réfléchissent pas avant d'agir ou avant de parler. Donc, mon combat fondamental, c'est contre l'ignorance et contre l'irresponsabilité. Et donc mon écriture, c'est d'abord une écriture dont l'objectif fondamental est l'éveil de conscience et aussi la prise de responsabilité.
Alors, vous mentionniez ignorance, irresponsabilité, tout cela au prisme de l'Afrique. Il y a un ouvrage que vous avez publié assez récemment, une pièce de théâtre, qui est Le Code Noir de Louis XIV. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement connu, hein, même en France d'ailleurs, alors que bon, c'est quand même Louis XIV et Colbert qui ont mis ça au point. Permettez-moi juste de citer deux vers d'un poème tiré des Rhapsodies Fluviales d'Amidou Sall. Ces deux vers les voici. « Trois siècles d'un commerce ignoble, le code noir n'était pas civil. » Alors Amidou Sall fait référence au code civil en même temps qu'au code noir. C'est vrai que le code civil napoléonien est toujours très mis en valeur en France, le code noir, beaucoup plus oublié. Expliquez donc à nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément le code noir, qu'est son contenu.
Alors, le code noir est un recueil de lois, 60 articles et un préambule, qui date de 1685. Alors, 1685, Louis XIV, après avoir construit le château de Versailles, et les Invalides, et après toutes les guerres qu'il a menées pour l'expansion de la France et son prestige, et on sait également que Louis XIV aimait beaucoup le luxe, donc forcément il y a eu des dépenses, il y a eu beaucoup de dilapidation de fonds, et à partir de ce moment, la France s'est trouvée dans une situation de déficit financier. Alors il a fallu donc trouver l'argent, puisque le peuple français commençait à manifester son mécontentement et était face à la misère. Et Louis XIV a donc convoqué un conseil express de ministres pour trouver les moyens de renflouer les caisses de l'État. Et c'est en ce moment-là que son ministre des Finances de l'époque, Jean-Baptiste Colbert, lui a proposé de faire exactement ce que font l'Espagne et le Portugal avec l'Amérique du Sud, c'est-à-dire utiliser l'esclavage. Utiliser le commerce des hommes pour et aussi exploiter les matières premières, exploiter les ressources humaines et naturelles de l'Afrique pour renflouer les caisses de l'État français. Et ce texte, donc un texte a été rédigé pour codifier, pour légiférer, pour rendre légal le commerce, l'exploitation de l'Afrique, pour des raisons d'abord financières. Donc, le code noir est un date de 1685. Malheureusement, c'est un texte qui n'est pas très connu. Et moi-même, je l'ai découvert quand je suis arrivé en France. Donc, je me dis que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et c'est ce qui m'a amené à écrire le Code noir de Louis XIV. Alors, l'originalité de mon écriture, c'est que j'ai mis en scène Louis XIV et ses ministres en train de décider du sort de l'Afrique et des Africains. Bon, particulièrement des hommes de couleur. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'article 44 du Code noir dit que dans les relations entre l'Afrique et particulièrement la France, il faut considérer désormais les hommes de couleur, c'est-à-dire les Noirs en particulier, comme des objets, des biens meubles et transmissibles. Ça veut dire en termes clairs que depuis 1685, il faut considérer les Noirs comme des objets. Et qu'on peut des objets de génération en génération. Et cela explique beaucoup le comportement de certains dirigeants français, comme par exemple Sarkozy, qui lance par exemple qu'il donnait 48 heures au président ivoirien pour démissionner. Mmh. On sait aussi comment beaucoup de gens, beaucoup de chefs d'État africains sont maintenus au pouvoir grâce à la France. Voyez. Donc je pense que, et on sait aussi par rapport au Code noir, que les sales boulots, comme par exemple garde malade, garde enfant, sont généralement le lot quotidien des Noirs. Donc je voudrais que j'ai simplement, c'est un appel pour que les gens comprennent que les relations entre le Nord et le Sud doivent changer. Voilà. Et c'est ce qui explique l'écriture du Code noir.
Alors, effectivement, l'Afrique a été pillée, l'Afrique a été instrumentalisée, pillée également de ses ressources naturelles, hein, pas seulement humaines. Ça a été vraiment un pillage massif et global. Chose que vous expliquez très bien dans votre pièce de théâtre, Le Code noir de Louis XIV. La question du passé est douloureuse. Ça, c'est indéniable, mais celle de l'avenir est presque tout autant douloureuse et en tout cas laisse perplexe beaucoup de gens. Déjà, en 1962, René Dumont publiait « L'Afrique noire est mal partie ». Aujourd'hui, on est toujours en interrogation face à ce continent. Léandre Seyri, vous qui vous investissez beaucoup dans la réflexion politique, comment, d'après vous, l'Afrique peut-elle se relever ?
L'Afrique peut se relever et doit se relever. L'Afrique doit se relever parce que ce n'est pas normal qu'un continent aussi riche que l'Afrique soit encore le continent où il y a le plus de misère, le plus de pauvreté. Donc l'Afrique doit se relever. C'est un continent aussi où il y a beaucoup de jeunes, où la population est très active. Et c'est malheureusement dans ce pays-là qu'il y a le plus de calamités. Et je pense que l'Afrique doit se relever. Maintenant, la question que vous me posez, c'est de savoir comment l'Afrique doit se relever, doit se relever ou peut se relever. À mon avis, il y a deux axes. Le premier axe, c'est l'éducation. C'est-à-dire, et l'éducation passe par deux choses, la formation et l'information, pour permettre aux gens de sortir de l'ignorance. Parce que, voyez-vous, tout ce qui se passe en Afrique, que ce soit les rébellions, que ce soit les guerres tribales, que ce soit les guerres ethniques, les conflits ethniques et tout ça, c'est l'ignorance. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que le droit à la vie. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que le respect de l'être humain. Et je crois qu'il faut enseigner, cela. Il faut apprendre, il faut amener les gens à comprendre quels sont leurs droits et leurs limites également. Quels sont leurs devoirs. Et je pense que ça passe par la formation et l'information. Ça veut dire qu'il faut, redynamiser l'éducation, il faut redynamiser les écoles et les structures de formation. Le deuxième axe, la responsabilisation. Moi, je pense que les gens doivent pouvoir avoir conscience de leurs responsabilités, au plus petit niveau comme au plus grand niveau. Moi, à mon avis, voilà les deux points par lesquels passera le salut de l'Afrique.
Alors, étrangement, ce sont deux valeurs qui pourraient très bien être appliquées en Occident, parce qu'à la limite, je pense que la formation en Occident n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'elle devrait être, ou du moins, on voit que les élèves, quand ils sortent du baccalauréat, n'ont pas les connaissances nécessaires pour être de bons citoyens. Et donc là, on a une vraie question, finalement, d'aller-retour, puisque l'Occident a toujours été, entre guillemets, s'est toujours donné un rôle de tuteur par rapport à l'Afrique. Et là, est-ce qu'on pourrait pas finalement avoir l'inverse ? Parce que, pour poursuivre sur la thématique de l'esclavage, je voudrais vous demander ce que vous évoque l'expression « pays en voie de développement ». Est-ce que ce n'est pas, selon vous, le dernier avatar de l'esclavage, un esclavage intellectuel, un esclavage civilisationnel, qui tend à imposer à l'Afrique un modèle qui ne lui correspond pas forcément et qui finalement devrait nous amener à réfléchir sur le fait que ce que vous disiez pourrait s'appliquer très bien à l'Occident. Et donc, est-ce que l'Afrique n'a pas un message humaniste à délivrer à ce troisième millénaire?
Bon, moi, le messianisme, c'est quelque chose, le messianisme ou l'angélisme, c'est quelque chose qui ne m'enchante pas. Donc, je ne pense pas que l'Afrique soit un modèle à copier ou que l'Occident soit un modèle à copier. Je pense que sur la Terre, il y a des êtres humains qui doivent utiliser leur tête pour réfléchir et trouver la solution aux problèmes. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un pays qui soit un modèle. À mon avis, il y a des êtres humains qui ont réfléchi, qui ont fait des propositions intéressantes. Ces propositions peuvent être appliquées d'une manière ou d'une autre pour permettre à l'humanité d'avancer. Et ce que je peux dire par rapport à votre question, c'est, à mon avis, il y a toujours à considérer que l'homme est d'abord un animal. Nous sommes au départ dans l'animalité. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui restent dans l'animalité et qui ne vont pas dans l'humanité, c'est-à-dire dans leur comportement, dans leurs propos. Et ce qui explique justement que ce soit en Occident ou en Afrique, on a cette irresponsabilité due parfois au fait que les gens ne sont pas suffisamment sortis de leur animalité.
Vous pensez donc que l'homme est un loup pour l'homme et qu'il faut le domestiquer, c'est-à-dire l'éduquer pour qu'il puisse vivre en société?
Non, certains êtres humains se comportent comme des loups à visage humain. Mm-hmm. Et c'est malheureux. C'est-à-dire que, bon, on les considère comme des êtres humains, mais en fait, dans leur comportement, dans leurs propos, il y a l'animalité qui transparaît plus que l'humanité. Et ça, c'est à regretter fondamentalement. Et moi, je dis, parce que quelquefois on dit, bon, les Africains, les Européens, les Français, je pense que qu'on soit en Afrique ou qu'on soit ailleurs, l'homme est ce qu'il est. Et ce n'est ni une question de couleur, ni une question de taille, ni une question d'espace de vie. C'est une question d'éducation.
Effectivement, vous placez dans une perspective d'un humanisme assez universel finalement, et le poète étant un prophète, on parlait de messianisme, je vais vous inviter à lire l'un de vos poèmes. Alors je vous en prie, on va vous écouter. Place à la poésie. On vous écoute.
Alors, je vais lire par exemple un texte extrait de l'Éloge de l'Écriture, qui est aussi un de mes manuscrits que j'ai proposé et qui peut-être paraîtra dans les prochains jours, les prochains mois. Ça s'appelle La Aide. Il était seul, la aide, seul avec ses angoisses, seul avec ses peines, seul avec ses pensées, seul avec ses rêves. Il était seul, la aide. Et puis un jour, il découvrit le soleil. Par les pluies de la veille lavées, dans le ciel levé, le ciel tout frais, frais d'une fraîcheur imbibée de parfum. Il était seul, la aide. Et puis voilà. Un jour, au soleil, dans l'océan du ciel, rayonnant, le soleil lui fit à la aide une place. Et depuis ce jour, il n'est plus la aide seul. Et depuis ce jour, il n'est plus seul avec ses angoisses. Il n'est plus seul avec ses peines. Il n'est plus seul avec ses pensées. Il n'est plus seul avec ses rêves. Et depuis ce jour, chaque jour naît de l'azur des cieux, d'or et de roses couronnés.
Eh bien, merci beaucoup, Léandre Saïri, pour cette belle lecture.
Merci. Merci, Antoine.
Merci également à la librairie Galerie Congo de nous avoir accueillis pour cet entretien. Léandre, merci encore.
Oui, merci, Antoine, de m'avoir invité. Mm-hmm. Merci aussi à la librairie Bassin du Congo.
Je rappelle que votre prochain roman, Le Troisième Sexe, sortira aux éditions Les Murs à Pêche. Il y a également un autre ouvrage qui sortira sur Mandela et le procès de Rivonia aux éditions MPE. Également un événement qui va venir sur le Code Noir de Louis XIV que nous avons mentionné à Séclin le 23 mai 2014 dans la banlieue de Lille. Vous y interviendrez.
Oui, sûrement.
Et enfin, vous avez récemment publié, on n'a pas eu le temps d'en parler parce qu'en 20 minutes, il faut être assez rapide, Vous avez publié Le bon usage de la répétition dans l'expression écrite et orale aux éditions MPE, un livre que je recommande à tous nos auditeurs. À très bientôt.
Merci à tous les auteurs et merci Antoine.
Pour CKCU Literary News, Antonello Garcia à Paris.
De la radio communautaire de Carleton University Ottawa, c'était Parole d'Afrique, une émission de CKCU Literary News. Comme toutes nos émissions littéraires diffusées en trois langues, celle-ci vous est aussi offerte par Balado Diffusion Podcast, ainsi que sur notre liste lecture automatique, CKCU On Demand, telle qu'indiquée dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter. Au plaisir de vous lire et merci.